Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode de la nouvelle saison de notre très attendue et riche série L'écologie aux petits oignons. La série qui emprunte les mirettes d'humains passionnés de ces multiples êtres peuplant notre planète. À chaque épisode, nous tendons la feuille et l'oreille pour que l'humain, dans toute sa diversité, nous parle de sa vision du vivant. Cette semaine, nous recevons de grands amoureux de la cause animale embarqués dans une aventure collective humaine depuis quelques années en Normandie. Pouvez-vous vous présenter pour nos auditrices et auditeurs ?
Gold, gold, everywhere I go, I see gold.
Moi c'est Nico, ça fait donc 2 ans que je suis sur le lieu, donc au Mal-Ouestan. Ce qui m'a attiré d'abord, c'est surtout le côté antispéciste et lié à la cause animale. Puis le fait de voir plein de monde arriver, enrichir avec les personnes présentes, quelles qu'elles soient. Petit à petit, il y a eu beaucoup plus une part à l'écologie. Passionné de sport de combat, je commence à apprendre la sculpture sur bois.
Moi, c'est Lo. Donc je suis arrivée il y a un peu plus de 2 ans maintenant au Mal-Ouestan. Avant ça, je me suis professionnalisée dans la danse contemporaine. Donc ce bagage me suit encore au Mal-Ouestan parce que on essaye d'ouvrir aussi la dimension artistique, culturelle et puis tout ce qui est la conscience du corps et les savoirs anatomiques pour pérenniser nos activités. Alors, on considère que ça fait partie aussi de la question de l'autonomie plus généralement, quoi, de savoir bien utiliser nos corps. Donc ça m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et puis tout ce qui a trait à la recherche d'alternatives pour s'abstraire des différents sujets que l'on trouve problématiques dans le système actuel. Donc beaucoup de questions autour de l'écologie et de l'interaction avec le vivant et le non-vivant autour de nous.
Salut, moi c'est Charlie, la dernière arrivée sur le lieu. Voilà, ça fait maintenant 1 an et j'ai toujours eu une vocation à travailler avec les animaux au sens large et ça a tendance à fasciner avec le temps, choisir la meilleure direction selon moi. Mais à côté, j'aime aussi l'art, la musique et je m'intéresse maintenant petit à petit à la vidéo avec quelques projets en tête. J'aimerais réaliser un parallèle de la vie sur le lieu et du travail à y faire pour alimenter tout ça. Je suis prisonnière souvent à droite à gauche.
Moi c'est Cornet, ça fait 3 ans et demi que je suis sur le lieu, depuis en fait la création du lieu. Ce qui m'intéresse c'est surtout les aspects manuels et aussi de se reconnecter avec les bases de notre réalité, quoi, de notre existence, notamment le vivant. Et ce qui m'intéresse également c'est de mettre en pratique toutes ces valeurs que j'avais pu découvrir dans le milieu militant. Et donc c'est ce que j'ai un peu trouvé ça au travers du lieu.
Alors le Mal-Ouestan, ça représente 8 hectares. Donc dans ces 8 hectares, il y a des espaces dédiés à la pâture pour les animaux non humains qu'on accueille, pour un bon petit nombre. Donc je vais essayer de les lister sans en oublier. Donc il y a 4 cochons. Il y a la truie Joséphine, Napoléon, qui cohabite avec elle. On a un autre binôme de cochons qui est Sacco et Vanzetti. Il y a aussi le lapin la lapine, Jane et Roger. On a 2 canards qui vivent sur le lieu, donc Amy et Keira. Il y a une chatte qui s'appelle Suika. Il y a 3 chèvres, donc Satanas, Aria et Rose. 3 boucs, Piston, Drogo, Manoukian. 3 moutons, Usul, Yasuke et Fulan. Il y a une vache, Jacinthe. Les poules, il y en a 11 et un coq. Donc le coq, c'est Rick. Il y a Boulea, Kathleen, Poupoun, Conan, Miguet, Annie, Ida, Rava, Gula, Nalo. Puis c'est Loïc, 3 chiennes qui habitent également au Mal-Ouestan. Donc Nouchka, Saga et Izzy. On a la visite de non-humains sauvages qui sont réguliers et qui ont droit à un petit nom. Et donc, on a notamment en ce moment un rouge-gorge qui vient très souvent. Et du coup, a le petit surnom de Georges.
Qu'est-ce que le vivant signifie pour vous ? Sauriez-vous le décrire en 3 mots ? Un goût, une odeur, une couleur, une texture, un son ?
Alors, je vais choisir la couleur, pour moi, qui représente le vivant, je choisirai la couleur verte. Et souvent, c'est un peu la couleur qui revient dans l'écologie, et qui représente le mieux la nature, mais au sens large.
L'odeur juste après une rosée, un matin d'été, où il a fait sec, et tout d'un coup, tout est humide. Je trouve que c'est une odeur très particulière.
Moi, je partirais sur la texture. Ce serait vraiment une texture assez inégale avec des reliefs assez variés. Enfin, je perçois le vivant comme quelque chose assez synonyme d'une grande diversité, de plein de mystères, de rebonds et d'étonnements. Donc, une texture très chaotique avec plein de surprises au toucher.
Un son qui représenterait le vivant, ce serait le son du vent dans les arbres, qui nous rappelle qu'on n'est pas grand-chose, qu'on fait partie d'un tout, qui nous rappelle d'être un peu humble et aussi d'écouter ce qui nous entoure.
Comme goût, j'irai vers quelque chose d'assez contradictoire, à la fois acidulé, mais à la fois doux, riche et à la fois pauvre. Quelque chose à la fois très vivant, mais de très mort aussi. C'est si bon. Brut,
absente,
étonnante. Petite sensation, ça vaut mieux que millions.
C'est tellement, tellement bon. Comment retranscrivez-vous cette vision du vivant dans vos projets sur le lieu?
Voilà, c'est bon. Pour moi, il y a une recherche constante d'humilité, prendre en compte la globalité, les écosystèmes et essayer de comprendre leur fonctionnement, de voir comment on peut s'inscrire dedans de façon juste et authentique.
Au quotidien sur le lieu, on est confronté en fait à ce vivant. On cherche à y être confronté justement. On baigne dedans. On vit à ses côtés. On le voit tous les jours. Je pense que sur le lieu aussi, on n'est pas juste un lieu où on est tout le temps dans le faire, dans l'agir. Il y a aussi beaucoup de réflexion. La chose la plus importante à l'égard du vivant, c'est le rapport entre notre identité et ce vivant.
Finalement, tous les matins, quand je fais la tâche de sortir les poules et de leur donner à manger, je mets du grain en plus et je remplis tous les petits supports en bois qu'on a construits pour les oiseaux sauvages, pour qu'ils puissent aussi avoir des graines. Sur le lieu, on a aussi construit des petites cabanes pour les hérissons. L'été, on pense à mettre des gamelles d'eau sur les quelques hectares que nous pouvons occuper. On a aussi un champ d'agroforesterie, mais pour l'instant en friche, en attendant notamment que certains arbres poussent. Qui est une part assez cool à voir, juste évoluer sans qu'on soit tout le temps à y travailler. Forcément, il y a des impacts de notre présence juste à côté. On s'est passé des outils thermiques sur le lieu. Petit à petit, on apprend les anciennes techniques. On utilise la faux, on a des haches, des faux, des faucilles, des serpes, des houes. Et là, nous sommes en lecture du livre Sans fumier pour nous préparer là avant le début du printemps, pour bien nous préparer pour la saison de maraîchage aussi qui nous attend. Maraîchage que l'on fait sur des buts qu'on fait en entrant.
D'après vous, qu'est-ce que l'humain peut apporter à l'ensemble du vivant ?
Cette question, je la trouve certainement biaisée par toute notre histoire, par toute notre culture, qui veut mettre l'humain à une place qu'il n'a pas à être. Pour moi, déjà, si on était en capacité de juste pouvoir vivre avec, ce serait déjà très bien. Nous sommes dans une période qui nous montre que ce n'est pas le cas, qu'on ne sait pas juste vivre avec le vivant. On n'en est pas là.
Si on prend juste la base de l'humain comme animal, je pense que comme tout animal, le fait de déféquer et de mourir, qui peut enrichir la terre, déjà, on reprend la base, il pourrait tout simplement et le plus simplement possible apporter. En ce moment, en tout cas, à l'instant T, ça ferait plus de soigner les effets qu'il a pu apporter au monde et à la nature en général, essayer de limiter les pots cassés, quoi.
Pour pouvoir apporter quelque chose au vivant, il faudrait le comprendre. Scientifiquement, on a beaucoup de connaissances, mais je pense qu'on est loin pour autant de comprendre le vivant qui nous entoure. Je pense qu'on ne peut pas comprendre les échelles, ni la complexité. En fait, en tout cas, on n'en est pas capable dans la société dans laquelle on existe.
On va passer à la question d'actualité. Le précédent épisode Feuille de Chou, qui a été diffusé semaine dernière en podcast sur le site de notre radio PFM, portait sur le rapport du Haut Conseil pour le Climat. intitulé « La transition climatique pour une alimentation bas carbone, résiliente et juste ». Outre les aspects de politique publique encore incomplètes et inopérantes, l'agriculture durable et le localisme sont clairement cités comme des leviers importants pour diminuer l'impact carbone du pays de 22%. Pour rappel, l'objectif de l'accord de Paris, à horizon 2050, est la neutralité carbone, ce qui veut dire que tout ce qui est émis est stocké. Dans ce rapport, on comprend que le consommateur a un rôle, au même titre que les agriculteurs et membres de la filière alimentaire, pour réduire cette empreinte carbone. Les solutions listées sont diverses et demandent, pour leur complète efficacité, des changements profonds. Diversification des cultures et des paysages, nouveaux modes de gestion de l'élevage et protection des sols forestiers et prairiaux. À la lumière de votre vision du vivant, que pensez-vous de tout cela?
Oui, bien, en tant que ferme, on n'exploite pas d'animaux non humains. On est sur un bouquin qui s'intitule « Sans fumier ». C'est qu'on ne voulait pas introduire du fumier dans nos cultures, etc., de se passer d'un tronc animal. Planté pour, en fonction du type de sol, qui va à la fois décompacter ou compacter la terre, faire remonter tel ou tel nutriment, on se rend compte que vraiment, c'est quand même un type de culture qui est un modèle qui mérite certainement d'être développé. Les modèles qu'on explore ici doivent être en maximum en cohérence avec nos idéaux. Et par exemple, en tout cas pour la partie alimentaire, voilà, il y a vraiment une envie d'explorer plus en détail et vraiment de manière très technique, comme en maraîcher ou une maraîchère professionnelle qui, elle, utiliserait des intrants animaux et d'arriver à des résultats identiques, mais sans ces intrants.
Sur le vivant, on essaie vraiment de chercher à construire quelque chose de cohérent dans notre rapport au vivant. Et c'est extrêmement difficile. Je pense qu'il y a encore beaucoup de recherches nécessaires dans la compréhension des sols, dans la compréhension de beaucoup d'étapes en fait dans l'agriculture, la permaculture. On a vraiment des lacunes fondamentales dans ces domaines. Ce qui apporterait le plus dans notre situation, ce serait beaucoup de recherches, beaucoup d'investissements dans la compréhension de nos sols, dans un contexte où ces sols sont dégradés, quoi, et que du coup, on fait face à une situation inédite dans ces écosystèmes.
Je voudrais du soleil vert.
On va passer à l'agenda librairie. Quel rendez-vous ou référence souhaiteriez-vous nous communiquer?
Des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver.
Moi, je partirais sur un roman, Là où chantent les écrevisses. Pas si fréquent que ça de pouvoir accéder à des sensations au cours d'une lecture et d'avoir autant de place accordée à la nature et au vivant dans un roman de ce genre-là.
Je veux changer
d'atmosphère. Alors moi, je conseillerais Les cerveaux de la ferme de Sébastien Moreau. Et en fait, c'est la vulgarisation sur l'éthologie. On prend plusieurs espèces comme la vache, les brebis et les poules. Et c'est un peu l'étude de comportement. Ça permet vraiment d'avoir une autre approche, de pas rester en surface en fait.
C'est un recueil de différentes histoires, des fictions autour de la mort, de l'effondrement des écosystèmes et du temps et de plein de composantes du vivant actuel.
Pour ce qui est d'un rendez-vous au Mal-Ouestant, on va recevoir une exposition photographique et vidéo sur le thème de la Palestine. Donc c'est une artiste photographe qui s'appelle Anne Pack qui a énormément documenté dans ces 10 dernières années tout ce qui a pu se passer à Gaza. Donc on n'a pas encore de date fixée, mais il sera juste sur notre page Facebook le Mal-Ouestant ou bien sur notre site internet qui sera également indiqué.
Dans mon jardin de... La pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin, l'âge tendre, nul ne peut. vous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un Laté Cohen. Je voudrais toujours vous plaire dans mon jardin.
Ramène tes bottes.
Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver.
Tu y as pêché où, baobab, d'acajou?
Cet épisode entre co-construction d'une société différente et passion du vivant à pâte, à jambes et à tiges prend fin. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à un autre passionné du vivant, cuisiné aux petits oignons.
Mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.